Bonjour Sarah Mazouz, vous êtes chercheuse au CNRS, sociologue, spécialiste des phénomènes de discrimination et notamment de racialisation. On est très heureux de vous accueillir à Bordeaux. Vous allez intervenir demain dans un séminaire organisé conjointement par Sciences Po Bordeaux et la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux, qui s'intitule le séminaire « Décolonial et universel ». Donc c'est un séminaire de lecture au cours duquel nous travaillons sur des textes, sur des livres et nous invitons des auteurs. Et aujourd'hui, c'est vous que nous avons invité. Nous sommes très contents de vous avoir. Je me présente un tout petit peu personnellement. Je m'appelle Michel Cahen, je suis émérite, c'est-à-dire déjà à la retraite. Et je suis un historien de la colonisation portugaise, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur des concepts plus larges comme ethnicité, créolisation et notamment les théories postcoloniales et décoloniales. Je vais commencer par vous poser une question toute simple. Votre livre, qu'on voit sur la table, il a un titre un peu provocateur. En France, vous vous rappelez bien, le mot « race » a été supprimé pendant le quinquennat de M. Hollande de la Constitution française, même d'un point de vue négatif. Toute discrimination basée sur la race, etc., etc. Et il fallait dire que, puisque la race n'existe pas, on ne peut pas marquer toute discrimination basée sur la race. C'était un bel exemple d'universalisme abstrait. Mais alors, d'un point de vue, je dirais presque pédagogique, pourquoi vous avez choisi le mot « race » Alors, je précise pour nos auditeurs que la collection dans laquelle vous avez publié le livre est une collection dans laquelle tous les titres n'ont qu'un seul mot. Mais, par exemple... Est-ce que vous auriez pu mettre, à la place de race, est-ce que vous auriez pu mettre racialisation ?
Alors, merci pour cette question. Tout d'abord, juste une précision, finalement, le terme race n'a pas été... Il y a eu un projet de suppression de la Constitution, mais ça n'a pas été supprimé. Ça a été discuté en débat parlementaire.
C'était pas passé en première lecture ?
Pas du tout. Il y a toujours sans distinction de race dans le préambule de la Constitution.
Eh bien,
après, sur le terme même, en fait, c'est une demande de l'éditeur qui m'a demandé de travailler sur race et ça me paraissait important puisque en fait tout l'enjeu c'est de lever le malentendu sur l'usage critique qui est fait aujourd'hui de cette notion. Et donc le malentendu, il est lié à l'histoire de ce terme qui a servi pendant très longtemps à justifier la discrimination, des pratiques d'inégalité, de déshumanisation, d'exploitation de personnes qu'on catégorisait au nom de ce principe de hiérarchisation, en fait. On n'aurait pas mis racialisation, parce que racialisation, c'est un terme technique que moi je défends, qui est un terme des sciences sociales, qui permet justement d'expliciter ce qu'on entend aujourd'hui par la question. Quand on parle de manière critique de race, mais ce qui était important, c'était de parler du terme qui faisait l'objet aujourd'hui d'attaques, en jouant dans le cas précis de ce terme-là, de l'histoire lourde et funeste de ce concept. Donc c'était important, mais encore une fois, c'était une demande de l'éditeur, donc d'Anna Moza.
Alors justement, dès l'introduction, en page 10, vous nous rappelez que le président Macron et le ministre de l'Intérieur Castaner avaient refusé de reconnaître l'existence d'un racisme systémique. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'on entend par racisme systémique ? Quelle est la différence avec le racisme tout court ?
En fait, c'est comme beaucoup en ce moment, malheureusement, on a un débordement du discours politique sur des concepts qui sont des concepts de sciences sociales. Sans doute parce que les concepts de sciences sociales servent aussi à appréhender le monde, la façon dont fonctionne la société et notamment les logiques d'inégalité. Et donc comme ça ouvre une bataille et ça remet en cause, en fait, et c'est pas la première fois, hein, ça a toujours été comme ça pour les sciences sociales, c'est des instruments de questionnement et donc aussi de remise en cause d'un certain état de fait. D'où l'intervention constante de politiques qui ne connaissent pas forcément, en fait, le contenu scientifique de ces termes. En fait, quand on parle de racisme, le racisme, c'est un phénomène polymorphe. En fait, quand on pense au racisme, l'image la plus spontanée qu'on a, celle qui a été la plus diffusée, c'est celle du racisme idéologique, de gens violents qui adhèrent à une lecture hiérarchisée des groupes humains, avec l'idée que les différences qui apparaissent de manière phénotypique, de manière dans les comportements ou dans la culture, sont liées à une infériorité biologique et à une infériorité aussi morale, c'est-à-dire qu'il y a une différence de dignité entre les groupes humains qui apparaissent. Ça, bien sûr, quand on parle de race au sens critique, on est contre cet usage-là du terme race. Et cette façon-là de concevoir les choses, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le racisme idéologique. C'est-à-dire que c'est un corps de doctrine hérité du 19e siècle, et on pourrait même remonter au-delà, même jusqu'au 16e, sur voilà, une manière d'appréhender les différents groupes humains en proposant une sorte de classement, donc hiérarchisé, avec des gens qui sont au-dessus et des gens qui sont en bas. Ça n'est qu'un aspect, en fait, de la façon dont le racisme fonctionne et irrigue les sociétés, toutes les sociétés. Hein, il ne s'agit pas de... quand on parle de racisme systémique, on parle à la fois d'une sédimentation du racisme, donc le fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut être encore tributaire de catégorisations qu'on va mobiliser même sans s'en rendre compte. Mais plus profondément, c'est que, et là c'est un apport aussi de tout le travail sur la question des discriminations, qui peuvent elles aussi être des propriétés du système, et quand on dit systémique, on ne dit pas systématique. Ça veut dire que, je le dis parce que c'est souvent la confusion qu'il y a.
Bien sûr.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des propriétés du système qui peuvent même paraître à première vue comme étant neutres, mais qui, qui dans leurs effets, vont avoir un résultat qui est de l'ordre du racisme. Je prends un exemple, alors qui est plus du côté des peut-être des discriminations, mais vous pouvez avoir vous pouvez avoir un dispositif complètement neutre, par exemple sur les faits d'avoir de qui on accepte pour prendre en stage. Mmh. Et là, vous mettez une clause de nationalité. Donc jusque-là, tout est admis. La nationalité n'est pas un motif discriminatoire, etc. Il faut que les parents... je vais prendre un exemple plus clair. Il faut que les parents eux-mêmes aient travaillé, par exemple, dans cet endroit où on propose des stages. Si c'est un endroit où vous avez des clauses de nationalité... comme c'est par exemple le cas dans la fonction publique ou dans...
Et que les parents n'ont pas la même nationalité.
Oui, ou que les parents sont des parents étrangers, donc les enfants... en fait, ça veut dire que les parents n'ont jamais pu travailler dans ce type d'organisme. Et donc, des enfants qui seraient, eux, par exemple, français, qui souhaiteraient faire un stage dans ce domaine-là, ne pourrait pas y avoir accès du fait de cette disposition. Donc là, vous voyez, c'est une disposition neutre.
C'est pas une attitude individuelle de quelqu'un contre quelqu'un d'autre.
C'est
l'organisation du pouvoir.
Une organisation du travail, une organisation du pouvoir qui produit. Et là, s'il peut y avoir du racisme, si ça finit par toucher, il se trouve que, voilà, vu l'histoire de la nationalité et de l'immigration, et ben en fait, au bout d'un moment, on exclut de fait, sans l'avoir voulu, des personnes justement assignées racialement. Donc c'est ça. Et donc en fait, il y a une grande différence aussi, et c'est ça vraiment qui est important à retenir, au-delà de cet exemple, etc., c'est que quand on appréhende la dimension idéologique du racisme, on se focalise sur l'intention de la personne qui a perpétré un acte raciste. Quand on travaille de manière systémique, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, même si peut-être que c'est pas assez clair, c'est qu'on va après voir quelles sont les conséquences racistes d'une disposition qui est au départ complètement neutre. Et en fait, pour pouvoir saisir le phénomène raciste dans toute sa complexité, il faut articuler les deux dimensions.
Alors cela dit, je pense que dans les cas pratiques que vous avez étudiés, des fois l'un rejoint l'autre, mais on y reviendra.
C'est pour ça que
je voudrais avancer un tout petit peu dans le livre et passer à votre chapitre 1. Là, on était encore à l'introduction. donc le chapitre 1 s'appelle « Prendre le mot ». Et en page 19, vous remarquez qu'entre les années 1930 et aujourd'hui, le mot « race », je vous cite, hein, « a changé d'usage et de camp ». Alors, mais moi, personnellement, je rappelle, en remontant encore plus loin, qu'Ernest Renan, qui est tenu pour le grand théoricien de la nation française de type jacobin, dans son petit bouquin « Qu'est-ce qu'une nation ?», il parle fréquemment de race française,
oui,
pour exprimer que la race est culturelle et non pas biologique, mais que la culture est dans le sang. Alors, outre que le mot « race » a changé d'usage et de camp, n'a-t-il pas aussi changé de sens ?
Ah, mais bien sûr, c'est l'enjeu. Et en changeant de camp, il a changé de sens. Ce qu'on essaye de dire quand on a un usage, encore une fois, où je dis critique, parce que l'idée, c'est de, oui, déjouer ça, c'est pas de dire d'adhérer à une lecture raciste des rapports de pouvoir et de la société, c'est de dire, en fait, bien sûr, la notion de race au sens biologique, qui était celle d'un Ernest Renan aussi, plus largement du 19e siècle et d'une grande partie du 20e siècle, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les principes qui ont été établis en 45, après l'horreur des politiques du Troisième Reich, de dire il n'y a aucun sens biologique à cette notion, bien sûr que c'est un point de départ après pour l'usage critique de la notion de race. Et quand on utilise aujourd'hui de manière critique, et c'est pour ça que je dis que ça change de camp, ça n'est pas pour dire il y a des races, c'est pour dire qu'il reste un principe comme la classe, comme le genre, c'est-à-dire des formes de logique interne de hiérarchisation qui font que les sociétés se tiennent, parce que les sociétés sont structurées par des principes de hiérarchisation, et que à côté de principes comme la classe, le genre, l'âge, la santé, qui permettent qui produisent des inégalités, vous avez aussi la race. Mais il s'agit en aucun cas de donner à ce principe un sens biologique. C'est-à-dire que
d'ailleurs, vous me volez une question que je pensais faire plus tard, mais ça n'a aucune importance, c'est pas grave. C'est que vous dites bien, vous expliquez bien à un moment donné du livre que les racistes parlent des races au pluriel.
Exactement.
Et que la théorie critique de la race parle de la race comme principe de pouvoir, mais c'est au singulier.
Au singulier. Et ça, c'est un élément très important. Et de même, même si on parle au singulier, à aucun moment, dans un travail critique sur la race, si on veut être travaillé en toute rigueur, on ne doit dire c'est sa race ou c'est ma race. C'est pas ça. On ne parle pas des groupes. Les groupes produits par les logiques de racialisation sont, on peut dire, des groupes racialisés, parce qu'on insiste sur le fait que c'est la production, c'est le résultat de logiques historiques, sociales, politiques, économiques, qui vont faire qu'à un tel moment, dans telle circonstance, un groupe va être infériorisé au nom de son origine, quelle qu'elle soit, culturelle, géographique, religieuse. Donc c'est ça qui produit la racialisation des groupes. Mais à aucun moment, on ne va dire c'est sa race, comme si le fait d'être un groupe racialisé produisait
une race
et pour ne pas retomber dans l'usage qui a été l'usage raciste. Et pour les personnes qui nous écoutent, ce que je voudrais dire, c'est sous la forme d'une formule, c'est que quand on parle de race au sens critique, on est en train donc de déconstruire, de déjouer les logiques de construction de ces groupes qui ont permis de produire de la hiérarchisation entre différents groupes qu'on voit comme différents. Il s'agit en aucun cas d'adhérer à ces catégorisations.
Je pense que votre livre peut pas permettre la confusion.
Oui, hein. Oui, oui.
Il suffit de le lire.
Voilà.
D'ailleurs, c'est le but de ce podcast. En avançant un petit peu, en page 22, vous parlez de l'idée du race blind, enfin la république aveugle à la race. N'y a-t-il pas quand même une intention positive dans le color blindness
Oui. Alors.
Vous le critiquez, mais est-ce qu'au départ on peut pas est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'il
n'y
a pas une bonne intention?
Oui, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Non, mais c'est vrai en fait, c'est à dire que bien sûr que comme exigence, se dire que on pourrait arriver à un état social où on ne se poserait plus cette question, ça serait sans doute mieux. Il se trouve que dans les faits, là c'est une position de principe, il se trouve que dans les faits, quand on part du principe que ça n'a a priori, que ça n'a aucun effet, ça permet en fait de couvrir les différences de traitement qui continuent d'exister entre les gens au nom de ces logiques de racialisation et du fait qu'on se trouve dans une situation héritière d'une histoire où la race, à côté de la classe, à côté du genre, etc., continue a eu un poids énorme dans
ce... Excusez-moi, je vous ai coupé. Pardon. Allez-y.
Du coup, dans le fait de décréter a priori qu'on est race blind, donc aveugle à la race, ça permet surtout, malheureusement, dans les faits, de contourner, d'éviter la discussion constante sur le fait que ces processus continuent d'être à l'œuvre, même quand on décrète l'absence de racisme.
En fait, on est déjà dans le débat, mais on va y revenir, sur l'universalisme abstrait que vous traitez plutôt en fin d'ouvrage. Mais nous allons y revenir. Un autre moyen d'aborder la question, je crois que vous en faites simplement allusion dans le livre, mais vous n'en parlez pas directement, c'est la polémique qui a été très forte il y a quelques années, maintenant on en parle moins, sur les soi-disant statistiques ethniques. Est-ce que vous pouvez, même si ce n'est pas exactement dans le livre, est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Je sais que personnellement, j'ai toujours défendu les statistiques ethniques en disant tout de suite qu'elles n'avaient rien d'ethnique. Voilà. Mais en France, je fréquente les pays de langue portugaise, j'ai été au Brésil, et un jour, j'ai expliqué à des collègues brésiliens qu'en France, on n'avait pas le droit de savoir combien il y avait de gens noirs. Et elle m'a dit « Quoi ? La France, le pays des droits de l'homme ? On n'a pas le droit de savoir combien il y a de gens noirs ?» Voilà, vous réagissez évidemment contre ça, même si cet petit épisode n'est pas strictement étudié dans votre...
Oui, parce que moi d'abord, je travaille pas de manière quantitative,
oui.
Donc je travaille pas de manière statistique. Ce que je peux constater, en fait, deux choses. Je pense que quand on dit compter, il y a une ambivalence et une ambiguïté dans le terme. Et c'est vu l'histoire du comptage des groupes minorisés en France, on comprend que les gens, au départ, pensent plutôt à l'établissement d'un fichier. Dont on connaît, dans le cas à l'époque de Vichy, ce que ça a permis pour les personnes françaises juives. Donc, bien sûr qu'il y a cette peur-là, mais il y a une confusion entre le fait de constituer un fichier et le fait de mesurer, sans savoir qui sont les gens, mais de savoir combien, dans tel ou tel cas, il y a de proportions. Donc, quand on parle de statistiques ethniques, on parle de ce deuxième élément qui permet, en fait, et c'est ça, et ça produit le fait qu'on ne le fasse pas produit un vrai manque en matière d'objectivation des faits et donc après de construction de politiques de lutte contre les discriminations raciales, c'est qu'on manque d'une mesure pour comprendre en effet le phénomène, les phénomènes d'exclusion et donc d'inégalité, de discrimination liés à la catégorisation racialisée des gens. Alors il y a eu des éléments qui ont réussi à pallier ce manque, notamment grâce à l'enquête Trajectoire et Origine.
Des enquêtes sociologiques, c'est pas le recensement.
Ça n'est pas le recensement, mais ça permet quand même de mesurer. D'accord. Il y a une dimension statistique qui permet de mesurer l'effet de l'origine, donc au sens large du terme, dans les trajectoires des personnes, que ce soit en matière d'emploi, de logement et d'autres. Et donc, ça permet de donner une idée plus large. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas de statistiques, et moi, c'est ce que j'ai vu quand je faisais ma thèse sur les politiques de lutte contre les discriminations raciales et ce sur quoi elles butaient, il y avait deux choses sur lesquelles ces politiques étaient en train de se créer, butaient. Il y avait l'incapacité à nommer les choses parce qu'on ne parle pas de race directement. Donc, on a tout le temps utilisé des choses, des à peu près, qui empêchaient de penser la spécificité de ces phénomènes. Liés donc au processus de racialisation, qui ne sont ni l'immigration, ni... Voilà, c'est autre chose. Et puis, l'autre élément, c'est qu'on n'avait pas de chiffres généraux. Et donc, en fait, dès qu'il y avait des réunions, des discussions autour de ces phénomènes-là, donc plutôt du côté des discriminations que du côté du racisme, et si vous voulez, je pourrais distinguer les deux, on n'avait que du cas par cas. Donc des gens qui viennent témoigner de ce qui leur est arrivé ou de ce qui est arrivé à un ami, etc. Et donc ça, c'est très facile après de relativiser, de dire « Ah bah oui, mais vous n'avez pas eu de chance, en fait. » Et donc tant qu'on n'a pas de chiffres qui permettent de monter en généralité, de façon à voir ce qui se passe à l'échelle du pays, eh ben en fait, on n'a pas conscience de l'urgence qu'il y a à agir.
Ce déni, puisque c'est interdit, ce déni fait peut-être partie de ce que vous expliquez tout à l'heure sur le racisme systémique et non pas systématique.
Ben, ça permet, ça, pour le moment, l'absence de statistiques générales sur ces questions et sans oublier en fait toutes les précautions méthodologiques qu'il y aurait à avoir dans la construction de ces catégories. Et les chercheurs qui travaillent sur la construction de catégories statistiques pour pouvoir mesurer ça ont ça en tête.
Bien sûr.
Mais bien sûr, pour le moment, en fait, ça vient renforcer ou conforter, disons, ce déni général ou cette occultation générale de la question raciale en France, parce qu'on n'a pas de chiffres qui permettent de voir ce que le fait que des gens soient assignés à telle ou telle catégorie, qui reste une catégorie racialisée et racialisante pour eux, ce que ça fait sur leur vie, etc. Donc, bien sûr que ça vient faire qu'on est dans un à peu près et qu'on peut toujours dire, ben non, en fait, il n'y a pas vraiment de problème.
Donc la France, même si elle se veut un pays universaliste, au moins officiellement en tout cas, est quand même un pays bien spécial, parce que bien spécifique en tout cas. Si je compare avec nos voisins britanniques, alors d'une part on a un problème parce que le mot race en français n'a pas ou plus exactement le même sens que le mot race en anglais. Et par exemple en Angleterre, vous savez très bien qu'il y a une excellente revue de sciences sociales qui s'appelle Ethnic and Racial Studies. Mm. Imaginez en France qu'on ait une revue qui s'appellerait Revue d'études ethniques et raciales. Ça serait tout simplement inimaginable. Mm. Comment peut-on et nos amis anglais ne sont pas ni plus ni moins racistes que nous. Bon, comment peut-on expliquer ces différences de traditions politico-idéologico-institutionnelles?
Je pense que, alors vous avez dit la France est une spécificité, bien sûr tous les pays ont des spécificités, oui. Elle n'est pas si spécifique que ça dès qu'on regarde l'Europe continentale. Ce qui distingue, je pense, le Royaume-Uni des autres pays européens dits d'Europe continentale, c'est que le Royaume-Uni n'a pas d'histoire collaborationniste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que tout l'enjeu sur le fait après, et la difficulté à mobiliser de manière critique la notion de race, elle vient du fait qu'au départ, à juste titre, on a cherché à se distinguer des régimes collaborationnistes qui ont utilisé le terme race au sens raciste des nazis. Et qu'on retrouve après des formes de colorblindness, pour utiliser ce terme, aussi bien aux Pays-Bas que, bien sûr, a fortiori en Allemagne, même en Suède, etc. Donc vous avez toutes, avec des histoires quand même différentes, mais la volonté très forte de rompre, et de ça avec ces régimes avec lesquels il fallait bien évidemment rompre, mais ça a eu deux conséquences, c'est-à-dire qu'on s'est limité à une lecture du racisme uniquement idéologique, comme je le disais au début, et que alors ça a à voir aussi avec le fait que quand tout ça s'est formalisé, ces pays avaient encore des empires, donc il y avait une partie aussi de l'organisation raciale des sociétés qu'on n'avait pas envie d'affronter. Et puis voilà, il y a la lourdeur de ce passé qui est tout à fait explicable. Et qui continue de jouer et qui après offre aussi enfin l'évitement de la question raciale qui en a découlé après offrait un certain confort puisque ça permettait de se dire on a réglé maintenant une bonne fois pour toutes
le problème. Je comprends bien selon vous la grosse différence entre le Royaume-Uni et la France plus une partie de l'Europe continentale, c'est le contexte, c'est la conjoncture, c'est la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Parce que je connais d'autres pays comme l'Espagne ou le Portugal, par exemple, où le mot race est employé. Alors,
oui, mais de manière problématique. Assez peu.
Critique. Non, c'est pas un problème. Pas au Brésil, par exemple, on dit les relations interraciales. On
alors, jamais en France. Je comparerais le Brésil, je dirais que c'est encore autre chose.
Oui, bien sûr, avec l'histoire de l'esclavage.
Je parlais vraiment de l'Europe et oui. Je pense que. Alors, le Portugal, je connais très mal, mais j'avais fait un peu une série d'entretiens aussi en Espagne.
Oui.
Alors, c'est quand même aussi deux pays qui ont une histoire particulière du XXe siècle.
Bien sûr.
C'était des pays fascistes, oui. Mais qui n'ont pas participé à la Deuxième Guerre mondiale.
Exact.
C'est compliqué en Espagne, c'est-à-dire qu'à la fois, quand on pose la question des discriminations raciales, c'est un non-problème. Alors, l'occultation est encore plus grande que dans le cas français. Et en même temps, on va dire El Día de la Raza et des choses comme ça pour parler de la découverte des Amériques, de l'histoire de Christophe Colomb, etc. Donc, bien sûr, le terme est là. Et là, ce qui était intéressant, en tout cas, si je dois résumer très vite les entretiens que j'avais pu faire avec des responsables, paradoxalement, d'organismes qui étaient censés faire de la lutte contre les discriminations, c'est que. Il y a l'idée qu'on peut pas parler de race parce que la race c'est un terme raciste et que c'est voilà, et en même temps on peut l'utiliser pour des trucs comme ça qui commémorent l'histoire de l'expansion coloniale et impériale de l'Espagne. Donc je suis pas sûre que le fait qu'on utilise le terme dans ces contextes là s'apparente à un usage critique plus proche de celui qu'on peut trouver au Royaume-Uni. Et après sur le Royaume-Uni, c'est aussi une histoire, en fait. C'est-à-dire que en 45, il y avait aussi une hostilité du racisme ordinaire, voilà, assez bien documenté dans la littérature, enfin voilà. Et puis petit à petit, il y a eu, alors peut-être là, moi je suis pas spécialiste du Royaume-Uni, mais aussi parce que il y a une tradition qui est de réagir autrement, disons, aux problèmes politiques et sociaux. On a pris les choses à bras le corps et il y a eu très vite le Race Relations Act et la mise en place d'une politique différente. Mais je crois malgré tout que il y a un poids différent de l'histoire qui permet, qu'il y a quand même une partie de ce qui empêche en France de parler de, voilà, c'est-à-dire que parler de race en France, ça, c'est quand on n'a pas envie d'en parler, c'est facile de redire race, c'est du racisme, ça nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire, etc.
Bien sûr.
En jouant du malentendu et du contre-sens.
Mais par exemple, en Angleterre, vous avez quand même au Parlement quelque chose qui s'appelle le Black Caucus, qui regroupe les députés noirs ou d'origine indienne, etc., etc. En France, on n'aurait jamais ça non plus. C'est pas uniquement la question de la Seconde Guerre mondiale.
Non, mais alors moi, je suis pas spécialiste du Royaume-Uni.
Non, mais ça, c'est parce que ça m'interroge. Votre livre est focalisé sur la France, évidemment, même si vous avez des références dans d'autres pays. Mais voilà, c'est des choses qui doivent continuer à être travaillées. Pourtant,
si je puis dire quelque chose,
bien sûr.
Sur ça, je pense que, mais là vraiment, je réagis là à ce que vous dites, sans être encore une fois spécialiste du système britannique, même si c'est un système qui m'intéresse et sur lequel je me documente. Je pense qu'à partir du moment où il y a une explicitation du fait que la société est traversée par des inégalités qui fonctionnent sur un mode racial, si par ailleurs on est dans un système où on se pose la question de la représentativité des groupes qui sont marginalisés et exclus, ben, si on est dans un contexte qui reconnaît le fait qu'il y a aussi des formes d'exclusion et de marginalisation qui se font sur un mode racial, il est explicable qu'au sein du Parlement, on se dit qu'il faudrait qu'il y ait un groupe des gens qui sont racialisés. Et je pense que c'est ça aussi le chaînon expliqué.
Mais en France, il y a cette même discrimination, on imagine mal des députés.
Mais elle n'est pas reconnue.
Voilà, elle est encore moins reconnue, en tout cas.
Oui.
Tout à fait.
Mais après, en France, en France, si on veut revenir à cette histoire de colorblindness, et donc d'aveuglement, de cécité à la race qui devient une forme d'aveuglement à la question raciale, il y a aussi, et là ça nous fait venir à l'universalisme abstrait, il y a l'idée, et encore une fois ça se comprenait complètement dans le contexte de la Révolution française, que l'égalité, elle s'obtient par abstraction de l'origine.
Tout à fait.
Et au départ, c'était l'origine de classe, l'origine socio-économique, parce qu'on sortait d'une société d'ordre. Et donc votre naissance était votre destin social et politique. Donc que les révolutionnaires en 1789, même si en fait on a tendance à beaucoup rigidifier les débats qui ont agité à ce moment-là la constituante, que les révolutionnaires de 1789 aient pensé que pour obtenir une égalité entre les citoyens et sortir du régime d'ordre, il faille s'abstraire des origines sociales, ça se comprend complètement. Il se trouve que tout de suite, en fait, on pouvait observer les effets non voulus et problématiques et marginalisants de cet aveuglement à l'origine, puisque d'emblée, ça a produit en fait le fait que tout ce qu'on percevait comme hors norme ou comme étant particulier était particularisant et donc était vu comme remettant en cause l'exigence d'abstraction. Et c'est comme ça que les femmes se sont retrouvées mises hors de du groupe des citoyens. Et après, c'est comme ça que tout ce qui avait à voir avec la condition raciale, pour dire les choses, et pas l'origine, donc ce produit d'une histoire de catégorisation raciale a fait aussi est vu comme un truc qui serait en opposition avec l'exigence d'abstraction. Et donc à chaque fois...
Et à l'unité de la nation.
Et à l'unité de la nation.
Le nationalisme va très bien avec ça. Alors, avançons un petit peu. La théorie critique de la race parle de la race comme rapport de pouvoir, et donc elle le met au singulier. Mais pourtant, quand on voit des jeunes qui s'insultent dans la rue, et qu'il y en a un qui dit à l'autre « ta mère », et que l'autre lui répond « ta race », pour
c'est
lui.
Pas de la théorie critique.
Ce jeune qui dit ça. Oui, absolument. Ce jeune qui dit cela, il considère que la race existe. Donc la race désigne quand même une catégorie de gens.
Mais c'est un usage abusif.
Abusif. Selon la sociologue que vous êtes,
oui,
mais ce jeune, il parle sans intention mauvaise particulière. Il est tout à fait sincère. Donc, oui, comment utiliser race comme concept signifiant un rapport de pouvoir et ne pas parler de catégorie de gens?
Moi, je dirais deux choses. La question que vous posez, là, il me semble qu'elle pose le fait que le contresens ou le malentendu à partir duquel j'ai commencé cette conversation nous menace tout le temps, parce que dans la tête des gens, quand on dit race, c'est toujours des groupes liés à des origines différentes, qu'on mette dans origine la géographie, la culture
tout
ou la religion.
Tout à fait.
Certes, et c'est pour ça que là, c'est là que la notion de racialisation sert. Bon, je pense qu'en fait, quand on utilise race, on doit savoir que, et c'est pour ça qu'on a une responsabilité très grande, c'est pas un usage anodin, et en effet, le contresens est toujours là. Donc moi, je fais le pari, alors peut-être un peu là optimiste vu le contexte politique et social dans lequel on se trouve, de l'éducation, du fait que, en formant les gens, en expliquant tout le temps, on finisse par débiologiser complètement la question raciale. C'est plus compliqué parce que c'est lié au phénotype, et donc il y a toujours eu le corps qui est venu en support aux conceptions racistes, pour le coup. Et donc il vient là en support aux logiques raciales. Mais voyez, si on refait un petit parallèle avec l'histoire, pendant très longtemps, la catégorie de classe, il y avait une lecture biologisante de la classe. Et elle a été attaquée aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fini par complètement perdre ça. Alors bien sûr, le corps ne joue pas la même chose, n'a pas la même place. Comme je le dis, il n'est pas en...
Non, mais vous avez raison de souligner. Il y avait de toute évidence, et je trouve qu'il y a même parfois encore une racialisation de la question de
classe. Une corporisation.
Parce qu'il y a bien des gens qui disent « Ah, mais ces gens-là ont moins de besoins que nous. » L'élite va dire ça, ils ont moins de besoins que nous, et pourquoi ?
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut décorporéiser et comprendre que c'est comment la place du corps dans ces processus. Après, je vois bien que pour race, vu la lourdeur et l'épaisseur de la façon dont le concept raciste a joué, c'est plus compliqué. Mais je pense que donc, il faut pas perdre une occasion d'expliciter les choses avec les gens. Et puis après, moi, ce que je dis, c'est que quand les gens veulent utiliser le terme et ne sont pas sûrs de bien l'utiliser, je dis que c'est là que le concept de racialisation sert. Parce que ce que dit le concept de racialisation, c'est quoi ? C'est dire que la société produit de manière historique, politique, économique, des logiques qui vont permettre de catégoriser les gens en arguant de leur origine, pensée comme radicalement autre, menaçante, inférieure, etc. Et donc, quand on parle de racialisation, là, pour le coup, ça n'est pas un terme qui a été utilisé par le racisme, c'est vraiment un concept produit par les sciences sociales pour dire comment, dans une époque donnée, les sociétés produisent du racial. Et donc, c'est là où le concept de racialisation qui explicite en fait ce qu'on veut dire par race quand on parle de manière critique de la race sert. Et donc, moi à ce moment-là, je dirais voilà, il faut dire, faut pas hésiter à expliciter. Mais je pense que c'est pas parce que en fait vous avez plein de concepts qui sont pas bien compris. Si on commence à voir aussi comment on utilise au quotidien genre, il y a énormément de contresens par rapport à ce que les
et même
de
nation
genre, ou nation, enfin, ou classe, ou, oui. Donc. Alors, bien sûr, il y a des conséquences très lourdes dans race. Mais je pense que plus on sera nombreux à savoir ce que ça veut dire race quand on l'utilise de manière critique, plus on pourra aussi...
Absolument. Répondre. Alors, je vais vous demander de préciser encore les choses. Vous utilisez très souvent dans votre livre le concept de racialisation, vous l'avez dit, mais vous utilisez aussi celui de racisation. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence ou la nuance entre les deux ?
Oui. Alors, donc, il y a une différence liée au départ aux auteurs qui ont sorti, qui ont formalisé ces deux termes, puisque racialisation, c'est un terme qu'utilise au départ Frantz Fanon quand il parle de la situation coloniale en Algérie. Il parle de racialisation de la culture, notamment du colonisé, pour montrer comment, dans la forme de domination dans la domination coloniale, les hiérarchisations raciales partent notamment du fait qu'on dénie aux colonisés le fait d'avoir En tout cas, on infériorise la culture du colonisé. Et lui, bien sûr, après, voit ce que ça fait dans les interactions entre colons et colonisés et ce que ça fait sur sur le plan psychique. Donc là, c'est le terme racialisation. Il est formalisé à ce moment-là. Et puis après, il est repris par des sociologues britanniques, justement, au moment où des gens comme Robert Miles décident de sortir de ce qui était au départ... Le cadre de réflexion des travaux de sociologie sur le phénomène racial, qui était les race relations au Royaume-Uni, et qui était très lié, ça revient aussi, ça fait écho à d'autres moments de nos discussions, à une conception idéologique du racisme, avec l'idée que il y avait des gens qui étaient mus par une idéologie raciste et qui donc avaient des crimes, commettaient des crimes de haine, etc. Et donc, ces sociologues se disent ça ne résume pas la réalité des phénomènes. Et donc, ils s'emparent du concept de racialisation pour montrer justement comment, en fait, ces processus irriguent toutes les relations sociales, comment on est tous pris là-dedans. Et même quand on n'est pas raciste activement, on n'est pas à l'abri de la racialisation. On peut racialiser des gens, on peut s'appuyer sur des concepts racialisants, etc. etc. Et donc, le terme devient un outil dans la sociologie britannique, et il revient après en France au début des années 2000, et encore, il n'est pas complètement présent. Donc ça, c'est racialisation. Et quand on parle de racialisation, en fait, on parle de toutes les logiques qui viennent organiser les rapports sociaux sous un mode racial. Ça comprend donc les gens qui échappent à l'assignation raciale, à l'infériorisation raciale, et qui, d'une certaine manière, bénéficient de la racialisation. C'est pour ça qu'il y a tout un pan des travaux issus de cette réflexion sur les logiques de racialisation qui s'intéressent à ce que ça veut dire d'être favorisé sur le plan racial. Donc c'est tout ce qui est sur ce qu'on appelle la condition blanche, même si la race n'est pas forcément la couleur et que les blancs ne sont pas toujours blancs dans leur carnation selon les réalités, les pays dans lesquels on travaille. Donc ça, c'est la racialisation, et donc ça comprend toutes les logiques qui traversent la société, et donc même les logiques d'avantages ou de bénéfices ou de privilèges racial. Quand on parle de racisation, on se réfère au travail de Colette Guillaumin, qui est donc une féministe matérialiste qui a travaillé sur l'idéologie raciste et qui a essayé de, elle, voir, qui a beaucoup fait des parallèles entre la façon dont le sexisme fonctionne et le racisme fonctionne. Un travail analogique entre ces deux types d'idéologie qui viennent justifier des formes de domination, en fait. Et donc, elle, quand elle parle de racisation, elle ne prend qu'un aspect de la racialisation, c'est la façon dont un groupe dominant va venir construire d'autres groupes qu'il considère comme inférieurs, comme étant des races. Et donc, c'est que l'aspect... En fait, quand on
donc
est...
Donc, la racisation fait partie de la racialisation, mais toute forme de racialisation n'est pas forcément racisation.
Exactement.
D'accord.
C'est-à-dire que racisation, c'est tous les groupes qui, dans l'histoire, ont subi le racisme ou ses effets indirects, sédimentés, etc. Donc, on peut dire, par exemple, que si pour reprendre l'exemple de la catégorie blanche ou de la condition blanche, on peut dire que donc la condition blanche est un des aspects de la racialisation, mais elle n'est pas racisée.
D'accord, d'accord. Je voudrais revenir un petit peu sur le lien entre couleur et race.
Oui.
Et notamment, je voudrais que vous m'expliquiez, parce que votre livre est principalement tourné vers la France, mais il a quand même quelques pages qui sont sur d'autres univers. Et expliquez-moi comment les Irlandais ont-ils pu être noirs et comment sont-ils devenus blancs?
Alors, ils n'étaient pas noirs, mais ils n'étaient pas blancs.
Ils étaient quoi, alors? Catholiques, en plus.
C'est ça. Mais ça vient de là, en fait. Oui. C'est une vieille histoire. Alors, c'est très intéressant, les Irlandais, parce que ça permet justement de montrer que la question de la catégorisation raciale et de la définition de des dominants comme blancs n'a rien à voir, en fait, avec la carnation. Dans le cas des Irlandais, c'est une histoire qui commence déjà dans la situation coloniale que subit l'Irlande de la part
De l'Angleterre
et la Grande-Bretagne. Et c'est justement au départ une racialisation de la religion. C'est l'opposition entre anglicans et catholiques. Les Irlandais étant majoritairement catholiques, ils n'étaient pas vus comme blancs parce qu'ils n'étaient pas anglicans.
Vraiment blancs.
Ils n'étaient
pas vus comme blancs.
Non.
Quand l'Angleterre était la puissance coloniale de l'Irlande.
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Et après, cette catégorisation traverse l'Atlantique et se retrouve aux États-Unis. Et là où c'est intéressant, ben, donc voilà, c'est par rapport à l'élite protestante, WASP, qu'ils sont pendant très longtemps, ils n'en font pas partie. Encore une fois, parce qu'ils sont, n'étant pas protestant, ils ne peuvent pas être white. Et donc...
Oui, parce que protestant, c'est forcément WASP. White, anglo-saxon, protestant.
Voilà. Et donc, voilà, étant catholique, ils sont... Et après, on le voit, parce que je pense que même il y a des nuances selon le type de protestantisme, puisque dans les mémoires de Benjamin Franklin, les Suédois étaient caractérisés comme basanés. On utilisait le terme swarthy pour désigner les Suédois. Donc là aussi... À première vue, on se dit tiens, oui, c'est pas vraiment
plutôt blond aux yeux bleus.
Mais... Voilà. Mais donc, vous voyez, c'est et j'insiste, c'est vraiment pour voir. Mais ça permet de montrer à quel point ces catégorisations raciales sont en fait des constructions. Ça n'a rien.
Les Portugais d'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, étaient considérés comme des cafres blancs. Donc, certes blancs, mais cafres, kafir, donc infidèles, enfin, etc. C'était.
Mais donc, voilà. Et en fait, là où on voit aussi comment ces catégorisations changent d'une époque à une autre et sont liées à d'autres. Enfin, comment aussi les différentes formes d'exploitation se croisent pour s'autoproduire, si je puis dire. À quel moment, et ça c'est le travail de Noël Ignatieff notamment, à quel moment les Irlandais deviennent blancs? C'est à partir du moment où on fait appel à eux dans le système d'exploitation esclavagiste du Sud et qu'ils deviennent des contremaîtres eux-mêmes.
Et ils sont au minimum au service du blanc, et donc ils deviennent blancs eux-mêmes.
Mais en fait, c'est que du coup, ils développent des pratiques de domination et de subordination des esclaves encore plus violentes que les contremaîtres protestants, et ça les blanchit, si je puis dire. Ça les fait passer du côté des dominants. Et en fait, il y a tout un champ d'études aux États-Unis sur ce passage en fait d'Européens qui n'étaient pas au départ protestants. Et qui sont, vous avez How the Italians were white, became white, etc. Donc vous avez cet élément-là qui montre en fait, et j'insiste, qu'il s'agit de processus sociaux en fait qui changent. C'est pas, on n'est pas pour toujours blanc, on n'est pas.
Voilà. C'est-à-dire que l'enrichissement, ou plus exactement l'élévation dans l'échelle sociale, blanchit. C'est moi, je donnerais l'exemple d'un mot en Afrique bantou, Muzungu. Muzungu, au départ, c'était la personne, le notable, la personne riche. Sous la colonisation, c'est devenu le blanc. Et aujourd'hui, ça redevient l'Africain riche. Il est Muzungu.
En tout cas, c'est les catégorisations raciales sont labiles, c'est-à-dire qu'elles changent d'une époque à l'autre, d'un contexte national à l'autre, mais elles circulent aussi. Et donc, bien sûr, c'est ça. Et c'est en ça, c'est leur côté labile qui est... le signe que tout ça n'est qu'une construction et que n'est qu'est le produit de projection, en fait, pour revenir à un terme fanonien.
Absolument. Alors, on va avancer un petit peu. Je suis à peu près à l'ordre du livre, même si toutes les idées se mélangent et se rejoignent et qu'on n'a pas forcément, dans notre conversation, suivi exactement l'ordre des pages. Il y a quelque chose qui me titille tout le temps, et sur laquelle je voudrais vous entendre et vous en parler la première fois à la page 44, quand vous évoquez la polémique provoquée en juin 2020 par l'apparition de l'expression « privilège blanc ». Je comprends ce que cela veut dire, mais blanc, c'est également quelque chose de contextuel et relatif. Dans une société où il n'y a que des blancs, il n'y a pas de blancs. On ne remarque pas qu'on est blanc.
Oui, comme dans les sociétés noires.
Voilà. Absolument. En Afrique, avant l'arrivée des Européens, d'ailleurs, le mot bantou, qui est le pluriel de muntu, muntu, ça ne veut pas dire noir, évidemment. Muntu, ça veut simplement dire l'être humain. Parce qu'avant l'arrivée des colons, la seule différence était entre la race humaine et les races animales. Donc muntu, ça voulait dire l'être humain. Après, c'est devenu une désignation pour une famille de civilisation africaine. Mais... est-ce que politiquement, c'est efficace de parler de privilège blanc? Est-ce qu'un ouvrier agricole dans une campagne où il n'y a pas un noir, si on lui dit qu'il est privilégié, est-ce que c'est efficace? Et est-ce que... Bon, évidemment, il ne va pas subir la discrimination raciale, il va subir une discrimination sociale, mais est-ce que ça ne va pas choquer inutilement? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver une autre expression pour exprimer la même idée?
Alors, bon, moi, je suis pas femme politique, donc je
ne sais
pas ce qui est forcément...
Non, mais vous faites un travail d'éducation populaire, quand même. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, après, moi, je pense que y a deux choses. Il ne s'agit pas d'aller dire à des gens... je pense que, là encore, c'est une occasion d'explicitation et d'ouverture à la complexité qui manque cruellement à l'époque. Privilège, ça ne veut pas dire forcément privilège socio-économique. Ça veut dire qu'on est dans une situation où, par certains aspects, on échappe à des formes de domination systémique, justement. De même que les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes, et que ça n'est pas forcément, ça n'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi le fait de ne pas avoir à penser qu'on peut se faire agresser au coin de la rue en rentrant tard ou quoi que ce soit. Et après, ça peut être des gens, ça peut être une femme très riche et un homme pauvre. Et ben, sur le plan du genre, cet homme-là est quand même privilégié par rapport à cette femme-là. C'est la même chose sur la question raciale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier les difficultés auxquelles peuvent être confrontés des ouvriers, des agriculteurs, etc. C'est pas ça la question. C'est de dire qu'à côté des difficultés qu'ils ont, il y a des choses où malgré tout, ils continuent. Il y a des formes de domination auxquelles ils échappent et auxquelles n'échappent pas d'autres gens. Et le projet politique, un projet d'égalité et de justice sociale, c'est essayer de montrer qu'en fait, en travaillant pour l'un, on travaille aussi pour l'autre. Et que c'est pas que ça sert à rien d'opposer les classes populaires blanches aux classes aux personnes racisées, parce qu'en fait, en travaillant pour l'égalité, on travaille ensemble. Simplement, il n'y a pas une seule forme d'égalité, il y a plusieurs formes d'égalité. Et de même que on peut expliquer aux personnes racisées privilégiées sur le plan économique que sur le plan économique, elles échappent à certaines formes de domination. En fait, c'est un travail dans les deux sens.
Oui, ça j'ai bien compris et j'espère que les lecteurs le comprendront très bien dans l'ouvrage. Mais dans l'histoire du mot privilège ou privilégié en France, vous en parliez tout à l'heure à propos de la Révolution française, le privilégié, c'est non seulement celui qui a des privilèges, mais c'est aussi celui qui agit pour le maintien de ses privilèges. Or, même si le fait d'être blanc, moi par exemple, je suis blanc, je n'ai jamais souffert dans ma vie du racisme anti-noir, j'espère que je n'ai jamais activement fait quoi que ce soit en faveur de la discrimination des gens noirs.
Non, mais bien sûr, mais là, on se replace, vous replacez ça sur un plan individuel.
Oui.
La question du privilège blanc, elle vient pas toucher les gens individuellement. Ça désigne encore un élément structurel. C'est-à-dire que c'est une arithmétique de l'inégalité. S'il y a des gens qui pâtissent d'une situation, vous en avez forcément qui en bénéficient. Ça peut être sur le plan économique, ça peut être sur les questions de genre, ça peut être sur les questions de sexualité, ça peut être sur les questions raciales et sur la question du handicap, etc. etc. Donc, avoir une réflexion sur les logiques d'inégalité et cette arithmétique de l'inégalité, en fait, c'est aussi amener à faire prendre conscience aux gens pour qui la question ne se pose pas, c'est les amener à être concernés par le fait que ça se pose pour d'autres. Ça ne veut pas dire les désigner comme étant personnes qu'il faudrait punir ou rééduquer. Vous voyez, c'est pas ça quand on parle de privilège blanc. C'est juste décrire un phénomène d'arithmétique de l'inégalité ou de l'égalité. Si on veut arriver à faire plus société, il faut que quand on appartient à un groupe pour qui telle ou telle question ne se pose pas, eh ben on se rende compte que pour d'autres membres de la société, ça se pose et qu'on se sente concerné par le fait que ça se pose pour et qu'on essaye de travailler tous ensemble au fait que ça ne se pose pas, au fait que ça ne se puisse ne plus se poser.
D'accord.
Et là, du coup, je fais un peu un lien avec le petit livre là pour l'intersectionnalité.
Oui.
Alors c'est un terme qui a été très décrié, qui a aussi fait l'objet de toutes sortes de contresens. Je pense pas qu'on ait assez de temps pour en parler là. Mais il y a une autrice qui est une juriste spécialiste aussi de l'intersectionnalité, qui n'est pas Kimberlé Crenshaw qui a inventé le terme, mais qui est Marie Matsuda. Et elle dit, elle, l'intersectionnalité, c'est poser l'autre question. Poser l'autre question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poser à mon petit niveau individuel, la question de mes points aveugles, c'est-à-dire tout ce à quoi moi je ne suis pas confronté, tout ce dont je ne souffre pas directement, tout ce dont je ne pâtis pas directement, de façon à être en lien avec des gens qui traversent d'autres expériences, mais c'est aussi sur un plan collectif et sur le plan des organisations politiques aussi, qu'il s'agisse d'associations ou de partis, qui sont par nécessité, par définition, lié à une cause particulière. On ne peut pas être multicausal quand on veut s'engager sur le terrain et faire le travail. Mais poser l'autre question, c'est se dire, oui, bon, ben voilà, moi, je lutte pour l'antiracisme, il faut que je fasse gaffe de ne pas produire du sexisme, de l'agisme, et que je me pose la question, en fait. C'est-à-dire que quand je vois un acte, non seulement quand je vois un acte raciste, je me demande s'il n'est pas autre chose aussi, s'il ne comporte pas du sexisme, s'il ne comporte pas de l'homophobie, etc. Mais moi, dans ma propre action, comme féministe, comme antiraciste, comme antivalidiste, etc., il faut que je fasse gaffe de ne pas être en train, parce que je suis complètement prise par la cause qui m'importe au premier plan, de ne pas oublier les autres causes.
Vous êtes dans le chapitre 7, qui est le plus long du livre, de ce petit livre. Vous êtes ulcéré. On sent vraiment que vous êtes ulcéré par le fait que certains historiens ou sociologues tirent d'un trait définitif contre la théorie critique de la race, alors qu'ils semblent n'avoir absolument rien lu de tout ce qui s'est publié sur le domaine pendant 20 ou 30 ans. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu cela?
Alors là, ça fait revenir à des controverses internes au champ universitaire.
Ou pas que, puisque le Nouvel Obs, Marianne, Charlie Hebdo...
Oui, c'est venu dans un deuxième temps.
Oui, bien sûr, mais ils s'en sont fait l'écho.
Oui, ils s'en sont fait l'écho. Disons que... Alors là encore, hein, c'est toujours... comment dire, ça a une signification plurielle.
Ça vous déporte. Des gens pourraient tout à fait être contre la théorie critique de la race en s'appuyant sur la critique des travaux qu'ils auraient lus.
Oui.
Et là, il y a une espèce de...
Il y a une ignorance.
D'ignorance volontaire, quoi. Enfin, je ne sais même pas si elle est volontaire, mais ça ne rentre pas. De toute manière, ce n'est pas universaliste, donc on ne va même pas le lire.
Oui, puis c'est surtout que ça demanderait de sortir du cadre auquel on est habitué.
La zone de confort.
De son confort habituel, d'aller se confronter. Et puis, moi, je pense vraiment... que c'est des travaux. Je dis pas que tous les gens qui adhèrent à ces travaux sont
eux-mêmes.
Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Bien sûr.
Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est des outils qui amènent à se poser la question de ses propres pratiques. Je dis pas que tous les gens qui s'emparent de la question de la théorie critique de la race sont eux-mêmes se posent forcément toutes les questions sur leur propre manière d'agir. Mm-hmm. Mais en fait, ça appelle quand même un espace. Et quand je disais tout à l'heure que dans l'intersectionnalité, ça pose aussi la question de nos points aveugles. Et je pense que ça aussi, ça gêne. Ça gêne d'autant plus quand on pense pendant qu'on a été toujours du bon côté de l'histoire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a une opposition, malheureusement, aussi du côté de la gauche. Parce qu'en fait, ça amène à repenser aussi le rapport de la gauche à la question coloniale, à la question raciale. Et tout n'est pas blanc dans cette histoire, même
tout
si...
Tout n'est pas blanc, si je puis dire. Voilà. Je vais vous poser une dernière question. Enfin non, je vais poser quand même deux questions parce que... La fameuse intersectionnalité. Bon, la sociologue Jules Falquet, elle préfère parler d'imbrication, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je me suis toujours demandé pourquoi elle était tellement contestée. Parce que c'est tellement peu contestable. Et le vrai problème de l'intersectionnalité n'est-il justement pas la race? Parce que dans l'intersectionnalité, il y a forcément la race. Et donc, ceux qui refusent l'intersectionnalité, ils vont pas refuser l'intersectionnalité entre la condition ouvrière et le fait d'être français. Par exemple.
Non.
Mais dès que le mot race intervient dedans, il vous accuse d'oublier la classe.
Oui. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure aussi.
C'est-à-dire
que il y a l'intersectionnalité, juste pour rappeler à nos auditeurs ou spectateurs, c'est un concept qui permet de penser deux choses. Donc à la fois ce qui se passe pour des personnes qui subissent à la fois le racisme, le sexisme et d'autres formes de domination. Ça ne s'arrête pas la question de la classe, justement, la domination socio-économique, etc. La maladie, le handicap, l'âge. Et le constat, au départ, c'est un constat qui porte sur les catégories de l'action publique aux États-Unis, de montrer qu'en fait, comme elles sont monocatégorielles, les gens qui se trouvent au croisement de plusieurs formes de domination sont encore plus exclus parce qu'elles sont jamais bien prises en compte. Quand on les prend pour lutter contre le racisme, on oublie que ces femmes, par exemple, c'est essentiellement autour de femmes, par exemple, victimes de violences quand elles sont noires ou qu'elles sont immigrées, on oublie qu'elles sont aussi victimes de racisme. Quand on les prend pour lutter contre le racisme, on oublie qu'elles peuvent être victimes de sexisme, même de la part d'hommes qui eux-mêmes ont le même statut du point de vue de la racialisation. Donc c'est ça, et ça ajoute quelque chose de plus. Donc c'est le croisement, ça peut aller même plus loin, ça peut être l'imbrication, c'est-à-dire comment il n'y a jamais de la classe sans de la race et du genre, etc., etc. Il n'y a jamais de la race sans, il n'y a jamais du genre sans de la classe et de la race, etc. Que tous ces rapports de pouvoir s'autoproduisent, se renforcent, etc. Mais ça dit encore un autre élément, et c'est ça que le terme intersectionnalité apporte. Vraiment, c'est que on ne peut jamais savoir a priori quel rapport de pouvoir a le primat. Donc ça embête les gens qui pensent que la classe va tout. Quand on saisit la classe, on résout tout.
Mm-hmm.
Bon. Et puis
le marxisme un peu vulgaire.
Oui, de
l'économicisme.
Un peu. Oui, c'est ça, un peu mainstream. Je sais pas comment le dire, mais voilà. Donc ça, il y a eu les mêmes problèmes dans cette lecture-là réductrice du marxisme avec les mouvements féministes, où on disait, ben, vous, les femmes, taisez-vous, ça se réglera quand on aura réglé la question de la lutte des classes.
Quand la France sera socialiste, il n'y aura plus d'oppression des
femmes.
Voilà.
Bon, donc c'est toujours le même schéma qui se réitère. Mais après, ce qui est intéressant aussi dans l'intersectionnalité, donc non seulement il n'y a pas de primat a priori, ça peut être une fois la race, ça peut être une fois la classe, ça peut être une fois le genre, ça peut être des fois tout ensemble, etc. Ça n'est pas aussi toujours une addition. C'est pour ça qu'il y a une image géométrique et non pas une image arithmétique de l'addition. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est pas parce que vous êtes une femme et noire et de classe populaire que ça va être forcément plus dur pour vous que pour un homme noir de classe populaire. Mmh. Typiquement, l'exemple le plus parlant, c'est la question des violences policières. Dans ces cas-là, vous risquez plus de subir un contrôle violent quand vous êtes un homme de classe populaire noire que quand vous êtes une femme de classe populaire noire. Donc, vous voyez, là, les différents facteurs d'inégalité ne produisent pas un désavantage tel qu'on aurait pu le penser si c'était qu'un système d'arithmétique simple. Donc, voilà ce que ça veut dire, en fait, l'intersectionnalité.
Pour terminer, je vais avouer que je n'ai pas bien compris quelque chose dans votre livre. C'est le titre de la conclusion qui est, je cite, « De l'universalisme abstrait à la transposition minoritaire ». Moi, je m'attendais à, après tout ce que j'avais lu, je m'attendais à ce que ce soit « De l'universalisme abstrait à l'universalisme concret ».
Ben ça, c'est la conclusion du petit livre pour l'intersectionnalité.
Bien sûr, mais là, pour l'instant, on parle principalement de... Oui, et en fait, les contenus ne sont pas contradictoires entre les deux livres.
Contenus ne sont pas contradictoires.
Je sais pas très bien que vouliez-vous dire par transposition minoritaire. D'autant plus que les deux mots du titre ne se retrouvent guère dans les pages de la conclusion elle-même.
Ben, j'explique après ce que j'entends par transposition minoritaire. Je dois dire que c'est quelque chose sur lequel je suis revenu. C'est-à-dire que il me semble que ça peut être quelque chose qui aurait trait au fait d'arriver à faire un exercice sur soi pour se sentir concerné par les conditions qui ne sont pas les nôtres quand on est du côté complètement majoritaire, soit quand on échappe à certaines formes de domination. Il est vrai que maintenant, et donc le petit livre pour l'intersectionnalité est arrivé après race, et quand on fait de la recherche, en fait, c'est un processus continu, donc on essaye d'écrire des choses, et puis des fois, il y a des choses qui bougent. Il est clair qu'aujourd'hui, si je dois défendre les choses, je dirais que face à la question de... qui me semble que plutôt que par l'universalisme, que par l'abstraction, on peut obtenir des formes d'universalisation que nous avons appelées Éléonore Lépinard et moi dans le petit livre pour l'intersectionnalité, puisque c'est un livre écrit à quatre mains, l'universalisme concret, c'est-à-dire l'idée d'arriver, ça rappelle, il me semble aussi, des choses que présente aujourd'hui Sulayman Bachir Diagne.
On parle plutôt d'universel latéral.
Voilà, exactement, en se référant à Merleau-Ponty. Il y a l'idée qu'en fait, là où on se retrouve, c'est qu'on refuse le surplomb. Notre idée à nous, quand on parle d'universalisme congrès, c'est de dire, en fait, il faudrait arriver à partir, à voir dans chaque situation particulière, quelque chose qui est universel. C'est en ça qu'on essaye de déjouer la tentation du surplomb, de dire moi je suis plus universel que toi et je vais t'expliquer comment il faut être universel.
Alors,
donc peut-être juste pour dire concret, c'est l'idée de finir de voir aussi comment dans des expériences qui nous paraissent minoritaires, il y a de l'universel et produire du commun à partir de ces différentes expériences.
Absolument. Absolument. Là, je vous rejoins entièrement. Ça me fait plaisir que vous fassiez cette opposition plutôt que de, comme font certains des coloniaux, de lutter contre l'universel tout court. Mais on va terminer là. D'abord, saluer l'effort de la maison d'édition parce que publier ce livre pour 9 euros, il faut dire le prix, c'est important. Ça fait partie de la politique de cette maison. Et moi, donc, compte tenu de la jolie maquette interne du livre, donc votre livre ferait à peine 80 pages de texte. Comment, sur une question aussi complexe, écrit-on un livre de 80 pages?
Parce que je crois que ce qui a mû mon choix d'accepter cette proposition d'Anna Moussa, c'était que je voulais clarifier les choses. Et je pense que quand on veut clarifier les choses tout en restant dans la complexité, finalement, on y arrive mieux en ne s'étalant pas.
Je crois que c'est ça qu'il faut bien dire aux probables lecteurs de votre livre, c'est que ce livre fait un peu plus de 80 pages, mais il ne sacrifie absolument pas la complexité. Un dernier mot?
Non, juste merci à vous pour vos questions et pour voilà, le temps accordé à ces travaux.